France Culture.
France Culture, avec philosophie, Géraldine Mühlmann.
Suite de notre série sur Spinoza, ce matin, c'est tout particulièrement son traité théologico-politique de 1670 que nous explorons, Spinoza et la critique de la religion. Ce livre, le TTP, comme disent souvent entre eux les spécialistes, Spinoza l'a publié sans nom d'auteur et avec une fausse adresse d'éditeur, mais il fut vite reconnu et inquiété. L'ouvrage est interdit aux Pays-Bas dès 1674 et Spinoza en tirera la leçon. Plus aucun texte de lui après ne sera publié de son vivant. Spinoza critique la superstition comme remède à la crainte. Mais c'est un remède très instable. Les superstitions, il faut en changer tout le temps, observe-t-il. La religion, précisément, stabilise la superstition grâce à un ensemble de choses, un appareil, disent certaines traductions, textes prophétiques, cérémonies, dogmes théologiques, qui la rendent indiscutable au sens littéral du mot. On ne saurait en parler, on ne saurait en juger, tout est fait pour que le silence règne autour d'elle. L'un des enjeux centraux du traité théologico-politique, annoncé dès la préface et développé dans le dernier chapitre, est de défendre une liberté d'expression entière dans la société, liberté d'expression que tout naturellement la théologie honnit. C'est toute une vision du domaine de la politique, ayant coupé le nœud théologico-politique que propose la Spinoza, et il faut souligner que ce livre est à l'époque moderne un des tout premiers textes argumentés philosophiquement en défense de la liberté d'expression. On pourrait dire le deuxième grand texte après celui de l'anglais John Milton en 1644, Areopagitica. Le but de la philosophie, écrit Spinoza à la fin du chapitre 14 du traité théologico-politique, est uniquement la vérité, celui de la foi, comme nous l'avons abondamment montré, uniquement l'obéissance et la piété, ajoute-t-il, mais il a montré aussi à ce stade comment la piété est une dévotion par laquelle les hommes intériorisent toujours mieux l'obligation d'obéir. Alors comment la conceptualisation avance de chapitre en chapitre dans le TTP, c'est ce que nous allons analyser avec nos deux invités. Bonjour Dan Arbib.
Bonjour.
Vous êtes maître de conférences en philosophie à Sorbonne Université, spécialiste notamment de Descartes et de Spinoza. C'est vous qui avez réalisé la nouvelle traduction du traité théologico-politique de Spinoza dans les œuvres complètes, paru en Pléiade en 2022. Et bonjour Céline Hervé.
Bonjour.
Vous êtes maîtresse de conférences en philosophie à l'Université de Picardie, Jules Verne. Votre thèse a donné lieu à un ouvrage paru au Classique Garnier, intitulé « De l'imagination à l'entendement, la puissance du langage chez Spinoza », eh bien le problème du primat de l'imagination sur l'entendement dans la religion est au cœur de la critique de Spinoza, vous nous expliquerez. Je vous propose de partir, pour lancer notre discussion, du début de ce livre de 1670, c'est-à-dire de sa préface. Spinoza y dépose des concepts importants, la crainte, la superstition, la manière dont la religion stabilise la superstition en bloquant la liberté de parole à son sujet. Écoutez.
Parce que les hommes, la plupart du temps, du fait de l'incertitude des biens et de la fortune, flottent misérablement entre l'espérance et la crainte, ils ont de ce fait l'esprit fort enclin à croire n'importe quoi. Ainsi donc, la cause par laquelle est engendrée, conservée et entretenue la superstition est la crainte. De cette cause, il suit clairement que tous les hommes sont par nature soumis à la superstition. En outre, il suit que celle-ci doit être extrêmement variable et inconsistante, comme tous les hochets de l'esprit et les emportements de la fureur. Et enfin, qu'elle ne peut être maintenue que par l'espérance, la haine, la colère et la ruse, justement parce qu'elle naît non pas de la raison, mais de l'affect seul, en cela très efficace. Ainsi donc, autant il se fait facilement que les hommes soient pris par tout genre de superstition, autant il est difficile, au contraire, de faire qu'il persiste dans une seule et même superstition. Inconstance qui, à vrai dire, fut cause de nombreux troubles et de guerres atroces, car rien ne dirige plus efficacement la multitude que la superstition. Pour éviter ce mal, on s'est donc considérablement appliqué à orner la religion, vraie ou vaine, d'un culte et d'une pompe, de manière qu'elle eût un poids supérieur à toute autre chose et qu'elle fût toujours cultivée par tous avec la plus grande observance. Ce qui, à vrai dire, échut avec grande félicité aux Turcs, qui tiennent même pour impie le fait de disputer et préemptent le jugement de chacun par tant de préjugés qu'ils ne laissent dans l'esprit nulle place à la saine raison, fût-ce pour douter.
Cet extrait de Spinoza, comme tous les autres que nous entendrons ce matin, est pris dans votre traduction d'Anne Arby. Alors Céline Hervé, ce texte à soi seul est très riche. Il pose le problème de la superstition qui est liée à la crainte. Il qualifie la superstition de hochet, mais c'est un hochet dont il faut changer souvent. On croit une chose de manière superstitieuse, il faut en croire une autre. Et il arrive à cette question de l'inconstance. Il suggère donc que c'est ce mal, l'inconstance, que la religion y remédie. Et évidemment, il met dans la bouche des Turcs, peut-être est-ce plus simple à ce stade, l'habitude d'empêcher qu'on dispute de la religion. Dans la stabilité de la religion, y a-t-il le fait qu'on bloque la liberté de parole, de pensée et de parole à son sujet?
Oui, absolument. La manière dont Spinoza décrit les mécanismes superstitieux montre que, d'emblée, ils vont être cause de désordre, y compris dans l'ordre politique. Le problème, c'est que la superstition, bon, là, on voit qu'elle devient un instrument pour sortir les hommes de l'incertitude liée au lendemain, le fait qu'ils ne comprennent pas les ressorts des événements, des phénomènes qui les touchent. Donc, elle répond à un besoin de sens. Besoin d'ordre, un ordre qui est faux, qui est inadéquat, mais néanmoins, quand il parle de hochet de l'esprit, c'est que c'est des substituts, c'est une manière, en effet, de combler un vide, un hiatus dans le sens. Donc la superstition offre un sens transitoire, puisqu'elle va s'indexer à des interprétations de signes dans la nature. La nature va devenir un ensemble signifiant, une profusion de signes qu'il va falloir interpréter. Et les signes, voilà, en plusieurs sens, c'est tout est équivoque dans un signe, d'une certaine façon. D'où l'instabilité et le besoin de chercher des interprètes, des intermédiaires qui vont interpréter mieux, peut-être à l'aide d'une lumière surnaturelle, à l'aide d'une inspiration, etc. Donc la superstition expose à s'en remettre dans les mains, au fond, d'autres, de tiers, d'intercesseurs, d'une certaine façon, qui de cette façon-là, vont finalement se placer dans une position de pouvoir, finalement, voire même d'emprise, petit à petit, théologique, à mesure que la superstition va se scléroser, en fait, à travers des dogmes, à travers un appareil, comme vous l'avez dit, d'institutions, dogmes, cérémonies, classe de clercs, voilà. Une caste sacerdotale, dira Nietzsche plus tard, enfin voilà, qui vont confisquer d'une certaine façon le sens, le figer, le rendre univoque. D'où la défense, de plus en plus brutale, de plus en plus violente, de ce pouvoir d'interpréter, qui est au fond une emprise sur les âmes, dont on veut protéger, que l'on veut protéger, pardon, contre l'incertitude, le doute. Il faut plus douter, en fait.
Et surtout pas douter publiquement.
Surtout pas.
Donc, dès la préface, un des enjeux fondamentaux du livre, qui est de prôner la liberté d'expression, est posé en même temps que la critique de la religion se dit, ce qui semble montrer que le théologico-politique, c'est une machine où le politique entretient le théologique aide à fonder le politique. Il y a un donnant-donnant, mais au prix de la liberté d'expression. Et est-ce cela que Spinoza veut catapulter en défendant cette chose qui fait si peur aux théologico-politiques, c'est-à-dire aux théologiens et au pouvoir?
Absolument, il y a une alliance claire que Spinoza met en lumière et qui culmine non seulement dans la monarchie, mais surtout dans les dérives despotiques des monarchies. Et évidemment, l'image, l'exemple, le topos plutôt du despotisme turc, il a ce rôle-là. En effet, vous l'avez dit, c'est une manière de ne pas dénoncer peut-être directement, frontalement, ce qui se passe dans les provinces unies à son époque, à savoir une alliance entre une classe de prédicants, de théologiens, donc calvinistes, intransigeants, d'un côté, et... disons un parti de la monarchie qui cherche à faire revenir dans cette aristocratie républicaine, enfin ce mixte que sont les provinces unies, qui cherche à faire revenir des pratiques monarchiques à travers la figure d'un chef militaire, le Statthouder, qui est incarné traditionnellement par un membre de la Maison d'Orange. Donc il y a vraiment cette alliance, elle est très concrète à l'époque où Spinoza écrit le TTP, et elle a un pouvoir de nuisance extrêmement fort. Il y a des morts, il y a des emprisonnements, des interdictions, des systèmes de censure, de contrôle de la publication et de la parole publique. Donc c'est une alliance d'intérêts qui vise à se répartir le contrôle d'une part sur les corps, par le pouvoir politique à tendance despotique, et de l'autre côté un pouvoir, une emprise sur les âmes, donc incarnée par les prédicanten, les théologiens calvinistes orthodoxes qui font la chasse parmi eux à toutes les hérétiques, entre guillemets, à travers ce que Pierre-François Moreau a appelé une pulsion d'orthodoxie, quoi, qui est rémanente et qui concerne, au fond, toutes les formes de religion positive ou révélée. Enfin, toutes les religions s'exposent à ce type de pulsion d'orthodoxie et d'exclusion.
Dan Arbib, dans votre traduction, on lit donc que la religion... C'est orné, enfin, on a orné la religion, c'est le verbe que vous employez, d'un certain nombre de choses, d'un culte, d'une pompe. Le but, clairement, dans cet extrait, c'est qu'elle soit plus solide, moins discutée et moins disputée que la superstition classique, mais ça veut juste dire qu'on a fait une super superstition. Je dis cela parce que quand j'ai parlé d'appareil, c'est la traduction de Charles Lapune du même passage. Dans la traduction Garnier-Flammarion, ornement, appareil, c'est surtout un ensemble de trucs qui permettent de faire de la religion une superstition plus puissante que les autres.
Absolument. Lutter contre la variété des superstitions en instaurant une hyper-superstition, si je puis dire, c'est-à-dire toute la pompe cléricale dans laquelle le peuple, le vulgus, va se reconnaître et à laquelle il va être foncièrement attaché. Et ça va produire, en effet, ce que décrivait Céline Hervé à l'instant, c'est-à-dire une consolidation mutuelle. Le théologique va s'autoriser du politique et va le contrôler, et le politique va se parer des ordres du théologique. La légitimité théologique qui va être octroyée au politique va lui donner une beaucoup plus grande assurance. Et donc, il faut absolument défaire ce nœud entre le théologique et le politique. Il faut défaire cette solidarité. Et si vous défaites cette solidarité, qu'est-ce que vous obtenez? Vous obtenez une religion qui n'a plus, en première intention, de consolider le pouvoir politique. Vous obtenez une religion qui, dès lors, ne contrôle plus les pensées, ne contrôle plus les corps. La religion... telle qu'elle sert le pouvoir politique et telle qu'elle se constitue elle-même comme pouvoir politique, parce que c'est oui. Ça aussi. La religion constitue un pouvoir politique. La religion a tout intérêt à nous discipliner et à nous interdire d'exercer librement notre pensée. Et c'est pourquoi l'un des motifs de rédaction du traité théologico-politique, c'est de prendre la défense de la liberté de philosopher, c'est-à-dire simplement de rendre possible la philosophie. Parce que la philosophie...
Publiquement,
dans certaines limites que Spinoza précisera, tout de même à la fin de son volume, mais publiquement et même privément, parce que ce que dira Spinoza, c'est que ce besoin de penser librement, de toute façon, est irrépressible en l'homme. Et que tous les États qui veulent maintenir leur pouvoir au prix de l'interdiction de penser librement, s'exposent à des révoltes, à des révolutions.
Et
donc, Spinoza le montrera à la fin de son volume, il est plus utile pour un État de laisser la liberté aux citoyens, la liberté de philosopher, la liberté de penser, la liberté d'échanger, que de contraindre ou d'opprimer cette liberté, parce qu'en opprimant la liberté des citoyens, l'État s'expose à des révoltes. Et donc, l'État fait un mauvais calcul quand il interdit la liberté de penser.
Il y a une très belle phrase sur laquelle j'ai déjà invité Céline Hervé il y a quelques mois, qui nous avait occupé dans un épisode entier. Spinoza dit au dernier chapitre, le chapitre 20, ce qu'on ne peut prohiber ou ce qu'on ne peut interdire, il faut nécessairement le permettre.
Absolument, parce que, on y reviendra peut-être, mais quelle idée Spinoza se fait-il de la cité, du pouvoir politique ? Ce sont simplement des puissances agglomérées. C'est-à-dire que les citoyens remettent à l'État leur puissance propre. Et donc, en vérité, l'État, le pouvoir public, l'impérium, comme il dit, n'est en fait que l'addition des puissances individuelles. Mais il est toujours loisible aux citoyens de reprendre leur puissance. En vérité, l'état de droit est toujours un état de fait. Si jamais, moi, citoyen, en France, en 2025, je décidais de reprendre le pouvoir que j'ai confié aux politiques, je pourrais. Alors, si je suis moins fort que le pouvoir politique va s'abattre sur moi et va m'interdire de me révolter. Mais si nous sommes plusieurs à le faire, eh bien, le fait triomphera. Le droit, ça n'est jamais en vérité que du fait. Et donc, si vous opprimez une trop grande proportion de population, cette population peut parfaitement reprendre sa puissance, se réapproprier son droit qu'elle a initialement cédé, et renverser le pouvoir. Ce ne sera jamais qu'un état de fait. Et donc, tout pouvoir, si autoritaire soit-il, s'expose à la reprise de ce pouvoir par la population opprimée. Et c'est pourquoi il serait intelligent, de la part du pouvoir politique, de concéder cette liberté de penser dont les hommes ont besoin, parce qu'elle est irrépressible en eux.
Et donc, dans les phrases qui suivent, l'extrait de la préface que nous avons entendu, il y a effectivement l'hypothèse de Spinoza qui est terrible pour son époque. Je rêve d'un droit public, ou d'un empire, ou d'un pouvoir, selon les traductions, où seuls les actes seraient punis et nullement les paroles.
Seuls les actes et nullement les paroles, parce que les paroles n'engagent pas toujours les actes, à une seule réserve près. Et il le mentionne quand même, c'est qu'il y a des propos qui peuvent être en eux-mêmes séditieux, oui, s'ils appellent à la révolte. Et en ce sens, une parole peut être un acte. Nous
le savons aujourd'hui. C'est un enjeu juridique dans la loi française de 1980 sur la liberté d'expression. La provocation, par exemple,
absolument.
Article 24 et suivante, c'est vraiment ça. C'est
donc la distinction.
Un type de parole, absolument, qui pousse à agir.
Donc cette, ouais, distinction entre acte et parole qu'il propose dans la préface, elle doit être nuancée et elle le sera dans les derniers chapitres du TTP, notamment dans le chapitre 20, quand il parlera de propos séditieux. Un propos peut être, oui, un acte s'il compromet la possibilité d'une vie sociale ordonnée. Et dans ce cas-là, il doit être sanctionné comme tel.
Évidemment, il faut faire attention, parce que c'est un truc classique pour interdire des paroles, que de les juger trop actives, même s'il dit cela et on le comprend, c'est quand même un texte incroyable, très tôt, hein. Il n'y a pas beaucoup de textes, j'ai évoqué Milton en Angleterre, une trentaine d'années plus tôt, qui est un tout autre texte. Pour le coup, Milton est religieux, il y a une défense religieuse de la liberté d'expression, c'est tout à fait autre chose. Mais c'est un texte, même si la liberté d'expression doit être régulée, qui, chez Spinoza, dit d'abord qu'elle doit être. Fondamentalement, c'est ça que dit le théologico-politique.
Absolument, elle doit être, et de toute façon, elle sera. C'est ça qui est frappant, c'est que, bon, de ce point de vue-là, du point de vue de la liberté de penser articulée à une liberté de parole, enfin, le fait de penser quelque chose et de ne pas pouvoir s'empêcher à un moment donné de le dire ou de le publier, ça renvoie à une sorte de naturalisme, hein. C'est-à-dire que penser et parler, c'est d'une certaine façon une seule et même chose chez Spinoza. Même si on retarde la prise de parole, à un moment elle va arriver. Et elle va arriver d'autant plus virulente, voire peut-être même séditieuse, qu'on l'aura réprimée. Parce que il utilise, hein, les lois de limitation affective qui sont développées dans l'éthique un peu au même moment, hein, pour expliquer comment justement l'indignation générale peut se constituer lorsque publiquement un libre penseur, on va parler de cette manière-là, alors condamné à la prison, par exemple, qu'est-ce qui peut se passer ? Précisément, il va incarner une sorte de martyr. Ça, Spinoza le pense dans le chapitre 20, justement. Oui. C'est là qu'on retrouve cette idée d'une censure, d'une répression des opinions qui est complètement contre-productive, non pragmatique, etc. C'est qu'on ne peut pas humilier une opinion durablement. Au fond, évidemment, il faut avoir en tête, je pense, là encore, très concrètement, historiquement, des personnages très, très réels que Spinoza a longuement fréquentés, notamment les frères Cowherbach, en particulier Adrian, Cowherbach, qui meurt en prison, qui est brisé corps et âme par la répression.
Dénoncé par son imprimeur.
Absolument, se lancer dans une sorte de cavale, quitter la Hollande pour ne pas être extradé, etc. Donc là encore, on est vraiment c'est quelque chose de très concret. Autant il y a un topos de la critique de la superstition et de son alliance d'intérêt avec la monarchie qui date de l'Antiquité, qu'on trouve chez Cicéron, qu'on trouve chez plein d'auteurs, autant c'est une question qui est extrêmement brûlante pour Spinoza et qui est très proche de lui, en fait.
Et c'est peut-être, Dan Arbib, on peut le dire quand même là, évidemment, il ne cite personne, Spinoza, il ne cite pas Hobbes, mais c'est tellement clair qu'il lui répond sur le point que vous avez dit. Hobbes prétendait être très réaliste, pragmatique sur la nature humaine. Il produit un pouvoir absolu, une souveraineté absolue qui peut réprimer comme elle veut les actes et pourquoi pas les paroles. Au moins on aura la sécurité et l'ordre, disait Hobbes. Et au fond, la réponse de Spinoza, c'est « Je pense comme toi qu'il faut de l'ordre et de la paix. Je ne suis pas en désaccord avec un pouvoir souverain très fort qui réprime et qui se fasse obéir. » C'est un enjeu pour Spinoza. Mais sur les paroles, mon cher Hobbes, tu es bien naïf. Elles seront toujours là. Et l'idée de les réprimer est idiote, puisque comme vous l'avez dit, Dan Arbib, et vous aussi, Céline Hervé, ça marche pas, ça produit même des séditions encore plus graves que si on avait laissé la liberté de parole.
Il y a ce premier point, et un deuxième point que Spinoza thématise explicitement, à savoir que l'ordre politique instauré ne met pas fin à l'état de nature, puisqu'en vérité, l'ordre politique n'est jamais que l'addition des puissances individuelles. Donc, puisqu'il est loisible à chacun de reprendre sa puissance individuelle dès l'instant qu'il n'est pas satisfait par la façon dont le pouvoir politique exerce son autorité, il est toujours possible de renverser le pouvoir politique par un fait. Et par conséquent, l'état de nature ne disparaît jamais. Il est toujours là, potentiellement là, et même, mettons aujourd'hui en France, si l'état tient, c'est parce que chacun des citoyens a remis au pouvoir politique, son pouvoir personnel, si bien que le pouvoir peut tenir. Mais encore une fois, que chacun d'entre nous reprenne son pouvoir et que de nouvelles configurations, que de nouvelles additions de pouvoir individuel se mettent en place, et l'État saute pour être remplacé par une autre forme d'État, par un autre dirigeant, etc. Donc en vérité, l'État de nature n'a jamais disparu. Et c'est Céline Hervé employé le concept de naturalisme. Il est parfaitement justifié ici. C'est un naturalisme d'où on ne sort jamais, en vérité.
Alors, je voudrais qu'on avance un peu. Comme nous avons parlé de la question de l'obéissance, des actes et des paroles, je me permets de nous diriger tout de suite vers les chapitres 13 et 14 du traité théologico-politique qui font clairement écho à ce qui est déjà dit dans la préface, à savoir l'objet de la connaissance révélée, je cite Spinoza toujours dans votre traduction, Dan Arbib, n'est rien d'autre que l'obéissance, et par suite, elle est tout à fait distincte de la connaissance naturelle. C'est une machine à faire obéir, mais c'est justement un type d'obéissance qui est bas, pas digne des humains. L'obéissance est importante en politique. Pour lui, ça l'intéresse, mais pas comme ça, pas dans cette alliance du théologico-politique qui prend les gens pour des imbéciles et ces gens-là peut-être le veulent bien. Alors, la question de l'obéissance au cœur des religions s'est développée au chapitre 13 et 14. Écoutez cet extrait.
Nous voyons que Jérémie, Moïse, Jean comprennent en très peu de choses la connaissance de Dieu que chacun est tenu d'avoir. Nous concluons de tout cela que la connaissance intellectuelle de Dieu n'appartient en aucune manière à la foi et à la religion révélée. Ainsi donc, rien d'admirable du tout à ce que Dieu se soit accommodé aux imaginations et aux opinions préconçues des prophètes. Ensuite, rien d'admirable du tout non plus à ce que les volumes sacrés parlent partout de Dieu de façon si impropre et lui attribuent mains, pieds, yeux, oreilles, esprit et mouvement local, et en outre aussi émotion de l'âme, comme être jaloux, miséricordieux, etc. Et enfin, qu'il le dépeigne comme juge, et assis dans le ciel sur le trône royal avec le Christ à sa droite. Il parle assurément suivant la capacité intellectuelle du vulgaire, que l'Écriture s'applique à rendre non pas savant, mais obéissant. Qui en effet ne voit que l'un et l'autre testament ne sont rien d'autre qu'une discipline d'obéissance ? Qu'ils ne visent l'un et l'autre qu'à faire obéir les hommes d'une âme vraie. Il suit, enfin, que la foi ne requiert pas tant des dogmes vrais que des dogmes pieux. C'est-à-dire qu'ils poussent l'âme à l'obéissance, même si parmi eux il en est de nombreux qui n'ont pas l'ombre d'une vérité, du moment toutefois que celui qui les embrasse ignore qu'ils sont faux, sans quoi ils seraient nécessairement révoltés.
France Culture, avec philosophie. Géraldine Mühlmann.
Nous parlons de la critique de la religion chez Spinoza, Spinoza étant l'auteur que nous explorons cette semaine dans une série, dans 4 épisodes. Et ce matin, je suis en compagnie de Céline Hervé et de Dan Arbib. Dans le texte qui vient d'être lu, des chapitres 13 et 14, plusieurs extraits de Spinoza, chapitres 13 et 14 du traité théologico-politique de 1670, Dan Arbib, on retrouve des choses qui ont été déjà annoncées plusieurs fois avant, notamment dans la préface, les religions sont des machines à faire obéir, on va se demander comment exactement, mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'on avait d'autres passages de Spinoza où il semblait un peu plus tendre avec le christianisme qu'avec le judaïsme. Il y a des pages où il y a un certain hommage à Jésus, à Paul. Pour le coup, dans ce qu'on vient d'entendre, il les range exactement dans la même catégorie. L'un et l'autre testament ne sont rien d'autre qu'une discipline d'obéissance. Charles Lapune, autre traducteur, dit une leçon d'obéissance. À ce moment-là, ce sont toutes les religions révélées. Il n'y a plus de différence faite par Spinoza. Ce sont toutes les religions révélées qui sont critiquées.
Alors oui, c'est important ce que vous dites, à savoir qu'il n'y a pas de marcionisme chez Spinoza, c'est-à-dire qu'il ne refuse pas la continuité de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Pour lui, il y a un seul esprit qui souffle dans les deux textes. Quel est cet esprit ? Pour l'établir, Spinoza met en œuvre une critique de l'Écriture sur laquelle on pourra revenir, mais qui consiste à lire l'Écriture elle-même à partir d'un certain nombre de règles, de méthodes. Ces règles de méthode permettent d'établir une thèse. C'est celle que nous avons vue au milieu de ce texte, que nous avons entendu. Dieu, quand il se révèle aux prophètes, s'accommode à leur imagination. Ce qui veut dire que les prophètes n'ont pas eu de connaissance intellectuelle de la nature de Dieu, mais ils ont eu une connaissance imaginative. Et l'imagination ne nous permet pas d'avoir une connaissance vraie. Oui. L'imagination, vous l'avez vu dans les épisodes précédents, elle est très dépendante de mon corps, de la manière dont les corps extérieurs m'affectent. Autrement dit, elle est très idiosyncrasique, si je puis dire, elle est très personnelle, elle est très liée à ma complexion propre. Si bien que si vous prenez chacun des prophètes et que vous établissiez le rapport de la révélation qu'ils ont eue à l'état de leur corps, à leur tempérament, à leur préférence, à leur époque, vous obtenez des révélations à chaque fois différentes. Comment faire pour comprendre l'unité du texte? Eh bien, l'unité du texte, ce sera, si je puis dire, le plus petit commun dénominateur des révélations obtenues par chacun des prophètes. Et qu'est-ce que c'est que ce plus petit commun dénominateur de la révélation? C'est la pratique de la justice et de la charité. Mmh. Tous les prophètes ont eu des révélations différentes parce qu'elles dépendaient de leur complexion, de leur époque, de leur préférence, de leur tempérament, de leur caractère, tout ce qu'on voudra. Mais tous ont eu en partage l'impératif de pratiquer justice et charité. C'est donc le message de l'Écriture. Ce message se lit aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau Testament. Alors, il est clair que de ce point de vue, la personne de Jésus, d'une part, la révélation du Nouveau Testament, d'autre part, est plus en accord avec l'impératif de justice et charité.
Il y a surtout moins de commandements.
Il y a moins de commandements. Pour quelle raison ?
Que dans le judaïsme.
Parce que le judaïsme est vu pour Spinoza comme une religion politique. Mmh. C'est-à-dire que les 613 commandements qui établissent les lois juives, ce que les juifs appellent la halakha, c'est-à-dire la manière de se comporter en obéissant à certaines prescriptions, sont vus pour Spinoza comme des règles politiques liées à l'établissement d'un État. Dès l'instant qu'il n'y a pas...
En effet, je vous cite, parce que c'est vraiment clair, dès la préface, je tire la leçon que les lois de Moïse révélées par Dieu n'étaient rien d'autre que les règles de droit de l'empire singulier des Hébreux. Votre traduction, Charles Lapune, dit le droit propre à l'état des Hébreux.
Absolument. Donc les commandements, c'est-à-dire la pratique rituelle juive, pour le dire dans nos termes, la pratique rituelle juive n'est rien d'autre que le droit positif de l'État juif. Mais dès l'instant qu'il n'y a plus d'État juif, et Spinoza est assez pessimiste sur la possibilité d'en restaurer un, dès l'instant qu'il n'y a plus d'État juif, le rite juif n'a plus de légitimité. Qu'est-ce qu'il reste ? Eh bien, il reste la justice et la charité comme esprit de l'Écriture.
Mais vous ne trouvez pas que pour le christianisme aussi, lorsqu'il dit les apôtres, qui sont au fond un peu des prophètes, non pas à un moment prêché en prophète, mais en docteur, c'est une phrase de Spinoza, il a fallu convaincre des grandes masses. Vous ne croyez pas que toutes les religions, pour Spinoza, en vérité sont politiques, et le christianisme ne l'est pas tellement moins que le judaïsme?
Alors pourquoi Spinoza dit-il cela? Parce que il se rend bien compte que pour persuader justice et charité, il faut parler de façon, si je puis dire, adressée à l'interlocuteur.
Voilà.
Et par conséquent, faire fond sur ses propres convictions. Et donc, il a été inévitable qu'on ait monté sur la justice et la charité, qui sont l'essence de la prescription biblique, il est inévitable qu'on ait monté un certain nombre de thèses philosophiques. Parce qu'effectivement, on s'adresse à des individus qui ont des convictions de nature philosophique. Mais ces convictions de nature philosophique, qui sont celles qu'on intègre, si je puis dire, dans le discours, sont en vérité une pellicule superficielle et superflue. Elles ne constituent pas le cœur.
En tout cas, c'est pas ce qu'il appelle la religion vraie. Ce qu'il y a du vrai et du rationnel dans la religion, il n'a jamais dit qu'il n'y en avait pas. C'est la capacité à nous faire connaître, donc c'est pas de la politique ça, connaître les vraies valeurs morales.
Absolument.
Mais dans toutes les religions, arrive un appareil, pour reprendre notre discussion, qui enseigne, apprend à se soumettre. Alors c'est peut-être plus caricatural dans le judaïsme pour Spinoza, mais dans le texte qu'on vient de lire, les apôtres, les chrétiens ont fini par faire exactement la même chose, c'est-à-dire par fabriquer du théologico-politique.
Oui, mais ici c'est se soumettre à la loi de justice et charité. C'est pas forcément se soumettre à l'appareil politique de l'Église. C'est se soumettre à l'impératif de pratiquer la justice et la charité. Ce qui est important aussi, c'est que si le développement de la justice et de la charité en appareil philosophique d'une part et en appareil politique d'autre part est inévitable, il serait fâcheux que ces deux appareils se retournent contre la justice et la charité. Et c'est un peu ce à quoi on assiste. Mais très concrètement, on le voit autour de nous. Si vous voyez quelqu'un d'extrêmement religieux, d'extrêmement pratiquant, etc., dont la pratique n'est pas solidaire d'une impulsion spirituelle profonde en direction de la justice et de la charité, vous direz que tout ce qu'il fait ne sert à rien. Et que, en vérité, tout cela n'est que superstition, ce petit ritualisme précis et en fait absurde, se tourne contre l'esprit de la religion.
Oui, toute la lettre tue l'esprit. En fait,
toute la liturgie, absolument.
Est condamnée comme éloignant de la seule chose vraie et rationnelle qu'on peut trouver en débarrassant l'écriture de tout ce qui est faux en elle, et c'est le mot de Spinoza, la fausseté, qui est des valeurs morales rationnelles. Quoi.
Alors il ne dit pas fausseté, il dit... il faut que ces dogmes, ces dogmes doivent être non pas tant vrais que pieux. C'est-à-dire que la religion vraie n'a pas vocation à nous dire le vrai. Parce qu'elle est dépositaire de la vérité de la religion. Et la vérité de la religion, ça n'est pas une affirmation théorique ou dogmatique sur la vérité des choses, sur la nature de Dieu, sur ses attributs. La religion ne nous dit rien de vrai quant à Dieu. Par contre, la religion est vraie quand elle nous dit la vraie manière de nous comporter envers autrui et envers Dieu, c'est-à-dire pratiquer la justice et pratiquer la charité. La vraie religion nous dit la vérité de la religion, pas la vérité des choses dont il est question dans la religion, à savoir Dieu et tout le système
théologique. Mais cette vérité de la religion, on peut la voir, on peut même faire ce que Spinoza appelle connaître Dieu, dont on a déjà parlé dans les épisodes précédents. Pour lui, c'est connaître les règles rationnelles de la nature, du tout de la nature. C'est ça, Dieu, pour lui. C'est pour ça qu'en fait, même s'il parle de Dieu, c'est insupportable la manière dont il en parle pour toutes les religions révélées. C'est insupportable. Et on peut surtout pratiquer cette vérité, et il le faudrait, en fuyant quand même fondamentalement les religions qui engloutissent la petite part de vrai dans tout un tas de choses qui dénoncent quand même souvent comme fausses, on l'a entendu dans l'extrait précédent, comme mensongères. Ça n'amoindrit en rien cette histoire de vraie religion, de vérité de la religion, la critique de la religion.
Non, c'est là que il faut peut-être revenir sur le rapport superstition-religion, parce que le problème de la dérive superstitieuse, il est jamais totalement écarté. Hein. Toutes les religions positives révélées s'exposent lorsqu'elles se rigidifient, lorsqu'elles constituent des castes de pouvoir, etc., de clercs qui aspirent à une emprise sur les âmes, comme on l'a vu. Toutes ces religions s'exposent au retour de la superstition. Et là, Spinoza, il fait un geste à la fois généreux et profondément philosophique, c'est qu'il distingue l'obéissance de l'observance. C'est-à-dire que la religion ne tient pas, la vraie religion ne tient pas dans l'observance des rites, des cultes, etc. D'autant que la préface là-dessus dresse des portraits absolument ravageurs de tous ces tartuffes, au fond, hein, que sont les prédicantons, les théologiens, qui eux sont parfaitement observants, mais qui propagent la haine des hétérodoxes, des hérétiques, etc. Et qui, en plus, ont une vie véritablement dissolue. Enfin, voilà, on retrouve des motifs comme ça de critique des clercs, très, très fortes. Donc, d'une certaine façon, lorsque la religion vient se scléroser dans un appareil institutionnel, dans des rites, dans des choses très précises, très très concrètes, très matérielles, au fond, elle devient vaine, elle devient creuse. C'est ça la vana religio, hein. La vaine religion, c'est la religion creuse, qui n'a plus que l'apparence, que le masque, que la couleur de la religion, dès lors que ceux qui la pratiquent ou ceux qui la diffusent, la professent, sont mauvais. Enfin, haïssent leur prochain. Enfin...
C'est surtout cette notion de vraie religion qui est parfois utilisée pour dire que Spinoza l'aime bien quand même, la religion. Je suis gênée par cette interprétation parce que ce qu'on peut aussi entendre quand il dit la religion, c'est tout un tas de choses qui critiquent, la vraie religion, ce serait autre chose. C'est aussi en langage courant, par exemple, je vais prendre un exemple qui n'a strictement rien à voir. Vous connaissez le Pilate, vous connaissez le yoga. Bon, il y a plein de gens qui disent le Pilate c'est un amendement du yoga. Bon, j'ai rien contre les. C'est juste un exemple de rhétorique. Il y a des gens qui critiquent radicalement le Pilate en disant le Pilate c'est insupportable. Le vrai Pilate c'est le yoga. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui. C'est pas pour réhabiliter le Pilate de dire le vrai Pilate. Dans ce cas, faites la seule chose qui reste d'intéressant dedans, qui est le yoga. Alors faites du yoga. Donc quand il dit je critique la religion radicalement. Alors la vraie religion, c'est travailler la rationalité, la connaissance. Vous voyez, il faut peut-être pas entendre dans vraie religion de la religion.
Oui, mais tout le monde ne peut pas accéder à la rationalité philosophique. Tout le monde ne peut pas accéder à la rationalité philosophique. À sa logeuse, Spinoza demande d'aller à l'office et d'aller écouter le sermon du pasteur. Il y a un certain nombre d'esprits philosophiques qui peuvent atteindre la béatitude en lisant l'éthique et en se laissant conduire comme par la main jusqu'à la connaissance intellectuelle de Dieu, jusqu'à l'amour intellectuel de Dieu. Cela, c'est formidable, ils y arriveront, ils sont philosophes. Mais les autres? Alors les autres, ils sont effectivement en proie à la superstition, parce qu'ils ont toujours peur du lendemain et qu'ils ignorent le nécessitarisme de la nature. Ils sont en proie au pouvoir clérical, ils sont en proie au pouvoir politique, et ils sont en proie à l'alliance des deux derniers pouvoirs. Oui. Donc en vérité, ils sont opprimés par eux-mêmes et par les autres. Ceux-là, qui s'adonnent à toute forme de superstition et à cette forme de superstition qu'est le ritualisme excessif des religions fossilisées, on leur dit, reprends possession de ton texte, reprends possession des Écritures, parce qu'en fait, c'est cela que nous dit Spinoza. Reprends possession de ton texte, et à partir de là, tu pourras reprendre possession du sens de la religion.
Mais en même temps, si c'est pas leur truc, à ce qu'il appelle le vulgaire, il faut bien reconnaître que là, Spinoza, pour aller au bout de la critique de la religion, et à sa place, pratiquer uniquement la connaissance rationnelle, ça ne s'adresse pas à tout le monde. Vous en êtes d'accord, Dan Arbib? Il y a quelque chose là. La religion, ça fait du mal. Pour certains, ils en ont quand même besoin. Il y a quelque chose comme... Il est un peu résigné là.
Ah mais je pense Spinoza. En effet que pour Spinoza, si l'humanité entière pouvait s'adonner à la philosophie, être
oui,
parfaitement rationnelle et lire l'éthique, ce serait formidable.
Mais il ne le pense
mais
pas.
Tout le monde n'est pas philosophe et par conséquent, il est inévitable que la religion s'en mêle et donc il est nécessaire que chacun reprenne possession du vrai sens des textes bibliques. Et ce vrai sens nous est donné par Spinoza dans le TTP.
Alors maintenant, nous allons aborder un texte plus au début sur les prophètes et les prophéties. C'est un écho direct, je pense, à vos travaux, Céline Hervé, puisque vous avez travaillé sur le rapport entre imagination et entendement chez Spinoza. Alors, il est vrai que Spinoza commence parfois par des phrases pas méchantes sur les prophètes, mais au bout du compte, il considère qu'ils ont donné, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Dan Harbib, dans l'imagination et pas dans la réception rationnelle de ce qu'est Dieu, puisque Dieu, c'est la rationalité même pour Spinoza. Écoutez, évidemment, ça appuie sur le bouton de l'imagination chez les fidèles également. Écoutez, s'il s'agit des chapitres 1 et 2 du traité théologico-politique.
Les passages de l'Écriture, le prophète eut l'esprit de Dieu, Dieu infusa son esprit dans les hommes, ne signifie rien d'autre que le fait que les prophètes avaient une vertu singulière et supérieure à la commune et qu'ils cultivaient la piété avec une éminente constance d'âme. Ensuite, qu'ils percevaient l'esprit de Dieu. L'imagination des prophètes, en tant que les décrets de Dieu étaient révélés à travers elle, pouvait à titre égal être aussi appelé esprit de Dieu. Nous pouvons donc désormais affirmer sans scrupule que les prophètes n'ont perçu les révélations de Dieu qu'avec le secours de l'imagination, c'est-à-dire par la médiation de paroles ou d'images, elles-mêmes véritables ou imaginaires. Car puisque nous n'avons trouvé nul autre moyen dans les Écritures que cela, il ne nous est permis de forger la fiction d'aucune autre, comme nous l'avons déjà montré. Maintenant, par quelle loi de la nature cela s'est fait, j'avoue que je l'ignore. Pourquoi les prophètes perçurent et enseignèrent presque tout par paraboles, énigmes, et exprimèrent corporellement toutes les choses spirituelles, c'est pas tant. C'est que tout cela convient en effet mieux avec la nature de l'imagination. Ceux qui excellent davantage par l'imagination sont moins aptes à la pure intellection des choses. Ceux qui s'appliquent à rechercher la sagesse et la connaissance des choses naturelles et spirituelles dans les livres des prophètes errent donc totalement.
Céline Hervé, je vous laisse commenter ce texte.
Alors, il faudrait peut-être, pour comprendre ce dont résulte ce passage, passer précisément par le déploiement de tous les sens possibles que revêt cette expression qui est stratégique hein, dans l'écriture, qui est l'expression « esprit de Dieu », qui s'appuie sur un terme hébraïque, hein, « roar », voilà. Esprit de Dieu, l'esprit, alors voilà, on a toute une étude lexicographique extrêmement minutieuse qui permet à Spinoza de déployer tous les sens possibles, tous les usages possibles que l'écriture comprend de cette expression qui est stratégique parce que c'est d'elle dont se réclament les prophètes, c'est d'elle aussi dont se réclament, encore une fois, les contemporains de Spinoza à travers les Predicanten, hein, qui sont inspirés, hein,
oui. Voilà,
et qui revendiquent le monopole de l'interprétation sur la base de la possession de cette inspiration, de cette lumière surnaturelle. Et c'est là, c'est vraiment un socle qui est très important pour justement le théologico-politique.
C'est-à-dire que l'esprit de Dieu, c'est une chose que peut entendre Spinoza avec son drôle de Dieu, pour l'époque en tout cas, qui est en fait la rationalité, la nature. Oui, il y a quelque chose dont on peut saisir. Mais l'esprit de Dieu, la roi hébraïque, elle a donné lieu... aussi plus tard dans le christianisme, puisque finalement il va aller critiquer tous les deux, mais d'abord dans le judaïsme, à un délire d'imagination, c'est ça?
Alors oui, précisément, l'idée c'est de s'adresser au plus grand nombre. Je me mets là dans la peau d'un prophète, j'essaye, et je me demande comment faire croire, comment persuader. Et en effet, alors il y a toute une description de la personnalité des prophètes, hein, à travers toutes les occurrences, tous les exemples que l'écriture propose. Il en arrive à une sorte de type, hein, d'archétype du prophète, hein, qui en effet a une imagination vive et qui, de ce point de vue-là, a toutes les qualités pour pouvoir s'adapter à son auditoire, à une sorte de public. L'idée, c'est encore une fois de persuader concrètement et donc de précisément adapter son discours aux limites en fait du vulgus, qui est toujours le vulgus, le peuple hébreu, alors à travers les siècles évidemment, hein. Mais c'est extrêmement important, c'est-à-dire que vous l'avez dit, Dan Arbib, l'imagination, c'est quelque chose de très idiosyncrasique, ça repose sur l'enchaînement des sensations de notre corps, etc. Bon, c'est de cette façon-là que l'imagination se tisse. Dès lors, à certaines époques, dans certains lieux, dans certains modes de vie, on n'imagine pas de la même façon. D'où la nécessité de formuler de façon différente, selon les époques, selon les contextes,
la
le message. Oui. Voilà, le message divin.
Alors, Dan Arbib, ça nous renvoie aussi à la méthode de Spinoza face au texte. Pour lui, il faut pas taire le fait qu'il y a des textes fous. il le dit. Le procédé que j'ai mis en œuvre, par ce procédé, je veillais sur l'écriture pour qu'on n'accommodât point ces passages clairs et purs aux passages fautifs et qu'on ne les corrompît point les uns par les autres. Donc il y a peut-être un petit noyau qui est pur, intéressant pour lui, rationnel, très bien. Mais l'idée, je vous cite, c'est toujours votre traduction, et là c'était le chapitre 10. Est-ce que ça veut dire que les méthodes antérieures, qui parfois disaient « mais il y a toujours de la rationalité », c'est ce cas de Maïmonide, penseur, juif espagnol, né en 1138 à Cordoue. Il discute avec Maïmonide, il lui dit « non, tu fais trop la part belle à l'écriture, à un moment donné, il y a des choses qui ne vont pas ».
Alors, la discussion avec Maïmonide est omniprésente ici, notamment dans les deux premiers chapitres. Pourquoi ? Parce que, on l'a vu tout à l'heure, l'enjeu du traité théologico-politique, c'est d'épurer la religion de toute cette superstructure de superstition et d'appareil politico-théologique, mais aussi de toutes les convictions philosophiques sur la nature de Dieu, sur un certain nombre de vérités métaphysiques qui devraient, en toute rigueur de terme, ne relever que de la philosophie,
oui,
et non pas de l'appareil théologique. Ça n'est pas au clergé de nous dire ce qu'il en est de la nature de Dieu, mais aux philosophes. Donc il faut absolument épurer la religion, donc le discours prophétique, de toute ambition de vérité. Or, qui avait prêté aux prophètes une ambition de vérité ? Maïmonide. Mmh. Maïmonide, à la fin de la deuxième partie du Guide des égarés, expliquait que le prophète avait une connaissance vraie. Comment et pourquoi ? Parce que le prophète bénéficiait de l'épanchement de l'intellect actif, de l'intellect agent, qui venait d'une part se déverser sur son intellect, puis sur son imagination. Et le prophète était celui qui, en quelque manière, combinait un optimum entre l'imagination et l'intellect. Donc le prophète avait une connaissance, certes imaginative, mais de la vérité des choses, parce que c'était révélé à lui la vérité des choses au moyen de l'épanchement dans son intellect.
Oui.
Spinoza, voulant priver le prophète d'une connaissance vraie, est obligé de discuter avec Maïmonide pour écarter de la connaissance prophétique cette part intellectuelle. Comment fait-il ? Eh bien, il a cette thèse à la fin du texte qu'on vient de lire. « Ceux qui excellent davantage par l'imagination sont moins aptes à la pure intellection des choses. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que d'autant plus vous imaginez, d'autant moins vous avez l'intellection. Ceux qui imaginent beaucoup intelligent moins. Et réciproquement, ceux qui intelligent plus imaginent moins. Ça, c'était une thèse de Descartes. Il le disait à Mersenne, il le dit à Élisabeth. Autrement dit, quand un mathématicien me demande de démontrer mathématiquement ma métaphysique, observe Descartes, c'est comme s'il me demandait de démontrer par l'imagination des vérités purement intellectuelles. Pourquoi ? Parce que le mathématicien, le géomètre, ne cesse de se servir de son imagination. Si je vous demande de me faire une démonstration de géométrie, vous allez prendre une feuille, vous allez me tracer le triangle, le cercle, etc. Donc vous allez recourir à votre imagination. Donc le géomètre est un homme d'imagination. Et c'est pour ça qu'en général, les géomètres ne sont pas bons en métaphysique. Et Mersenne, à qui Descartes s'adresse, n'est pas très bon en métaphysique. Donc cette thèse d'une espèce de proportion inverse entre imagination et entendement va être très utile à Spinoza. Spinoza nous dit, on ne peut pas défendre, comme Maïmonide, que le prophète a à la fois le maximum d'entendement et le maximum d'imagination. C'est bien l'inverse. S'il reçoit les révélations par imagination, comme Spinoza l'établit dans le texte biblique, alors, intellectuellement, il n'a pas de connaissance réelle de la nature de Dieu.
Et qu'est-ce qu'on fait avec son texte, alors?
Alors, qu'est-ce qu'on fait?
Les textes qui n'ont pas été écrits, d'ailleurs, tous par les prophètes. Hein, ça, c'est encore un autre
Absolument.
Sujet.
Absolument. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on comprend que chaque prophète n'a eu qu'une connaissance imaginative, qui n'a pas eu vocation à nous dire la vérité. On en tire le minimum, c'est-à-dire le dénominateur commun. Comment on fait? Eh bien, on les lit les uns par les autres, on les compare. On compare aussi les leçons des textes. Et c'est pourquoi tout à l'heure vous citiez les passages où il est question de critique biblique. Il est l'un des initiateurs de la critique biblique. C'est-à-dire, on va comparer les leçons des textes, c'est-à-dire les versions sous lesquelles ces textes nous sont parvenus. On va s'interroger sur les auteurs de ces textes et on va distinguer le bon grain de l'ivraie, si je puis dire. Et qu'est-ce qui va rester? Il va rester ce à quoi je faisais allusion tout à l'heure, la justice et la charité, et non pas du tout une connaissance intellectuelle de Dieu. Mais quand vous faites ça, vous privez les clercs, vous privez le clergé, la caste cléricale, de toute ambition philosophique. Vous dites au clergé, vous n'avez rien à nous apprendre en matière philosophique, l'essence de Dieu, laissez-la au philosophe. Lui en saura quelque chose. Vous, vous n'avez qu'une seule mission, c'est d'entretenir chez vos fidèles la justice et la charité. Donc, vous pouvez éventuellement lire des histoires de la Bible, mais d'abord, vous devez les choisir correctement, parce qu'il y a certaines sornettes qui entretiennent la superstition. Mmh. Il y a des histoires de la Bible qui sont plus valables que d'autres, qui sont plus propres à entretenir chez nous une certaine forme d'édification morale. Ce sont ces histoires que le clergé doit lire et commenter avec ses fidèles, et par conséquent, le clergé ne doit pas être dupe de son propre travail. Il doit être éveillé. C'est pourquoi d'ailleurs Spinoza entretient une forme d'anticléricalisme réduit, limité. Le clergé peut être utile parce qu'il doit travailler dans l'âme des
quand
fidèles.
Quand il est intelligent, pour
quand il est intelligent
votre...
et quand il a le sens de ses propres limites.
Alors j'ai une dernière question là. Je suis désolée, on arrive au bout. Céline Hervé, il y a quand même un risque que Spinoza assume absolument, qu'il y ait beaucoup de textes gâtés, peu clairs, peu purs, fautifs, etc., au bout du compte, si on pratique sa méthode. Et c'est vrai qu'à un moment, on se dit, tiens, peut-être le christianisme, il y aura moins de textes mensongers. Et puis après, il écrit, regardez, il y a dans le Nouveau Testament, je cite, hein, 4 évangélistes, qui croira que Dieu ait voulu raconter 4 fois l'histoire du Christ et la communiquer aux hommes par écrit. Je crois que c'est le chapitre 12. C'est au bout du compte, même si on cherche la vraie religion, on finit par arriver peut-être à un stade où il n'y aura plus de religion du tout, quand même. Il n'y a plus grand-chose qui va rester, quoi. Le noyau, c'est les philosophes qui vont s'en occuper, non ?
Je pense que la vraie religion est... Peut-être plus précisément les quelques points cardinaux que Spinoza évoque hein, dans le chapitre 14, ce credo minimum, représente un stade d'une sorte de compromis hein, entre les délires de la vana religio et la possibilité de la résurgence de la superstition et le stade ultime de la connaissance intellectuelle de Dieu. Mais en effet, il s'agit d'écarter toute... vocation littéraliste hein, de la lecture des écritures, des livres de la Bible, hein, puisque en effet, on a de l'indécidable, on a un texte qui est lacunaire, dont l'autorité n'est pas toujours certaine, il manque des choses, il y a des apax, il y a des choses qu'on peut pas décider parce qu'on peut pas comparer les occurrences, etc. Donc il faut, d'une certaine manière, renoncer peut-être à une compréhension totale, d'ailleurs dans ce texte qui a été lu, hein, Spinoza, plusieurs reprises, il dit ça, je sais pas en fait, je ne sais pas. Voilà. Et en fait, peu importe. Au fond, la pierre d'achoppement de la foi, finalement, c'est la pratique de la justice et de la charité, l'amour du prochain. C'est ça qui va permettre d'évaluer et de ménager une place, alors, à un clergé sous contrôle, quand même, hein, des autorités de l'État, pour que précisément ils ne poursuivent pas cette entreprise d'empiètement.
Oui, mais pas l'État autoritaire qui utilise la force du clergé, pas un État qui donne la liberté d'expression à tout le monde pour que le clergé soit exposé. C'est bien ça.
Absolument, oui, oui, tout à fait. Mais néanmoins, l'idée, c'est quand même d'empêcher cette manière d'empiètement que le pouvoir théologique s'arroge, ses tentatives de parler de science, de philosophie, et décider comment les hommes doivent être gouvernés. Parce que ce qu'on n'a pas dit, je le dis en deux mots, c'est qu'il y a quand même une résurgence du modèle théocratique à l'époque où Spinoza écrit. C'est pour ça que la République des Hébreux, il faut revenir quand même au texte pour savoir ce que c'était.
Et d'où les vertus de la liberté d'expression.
Absolument.
Et à tout moment, cette résurgence, elle est pulsionnelle. Donc il faut toujours contrôler la religion parce qu'elle risque toujours, finalement, de nous enfermer. C'est l'actualité de Spinoza.
Merci tous les deux, on pourrait continuer longtemps. Hein. C'était très, très... précis, tout ce que vous avez dit, très intéressant. Céline Hervé, Dan Arbib, les références de vos travaux sont sur notre site. Voici maintenant la chronique de Frédéric Worms. Cette semaine, il interroge la notion de représentation. Voici le pourquoi du comment.
Pourquoi y a-t-il de l'irreprésentable ? On appelle représentation, il faut le rappeler, la capacité de l'esprit humain à transposer un phénomène dans le cadre d'une perception qu'il peut maîtriser. Par exemple, nous percevons ici une salle avec des objets, c'est à notre mesure, et le tout du monde semble se disposer autour de notre corps. Il faut, pour survivre, pour les esprits humains, d'une manière vitale, il faut pouvoir faire entrer dans le cadre d'une perception maîtrisable, même ce qui semble y échapper. Or, est-ce toujours possible ? Peut-on tout faire entrer dans le cadre de la représentation humaine? Il y a d'abord un problème de complexité, mais ce n'est peut-être pas le plus grave. On sait que les humains peuvent inventer des modalités de représentation. Par exemple, pour représenter l'univers, il y a des cartes, des cosmographies. La physique, l'astrophysique ne cessent de nous donner des représentations d'un univers de plus en plus infini. Il rentre mystérieusement dans le cadre de la perception, et de même pour la perception de l'infiniment petit. Nous faisons entrer dans la représentation humaine, ce qui semble y échapper, des particules qu'il est difficile de se représenter, mais que la physique nous permet quand même de concevoir, sinon de percevoir. Et il en est de même dans la représentation politique, dont on a vu qu'elle peut être fidèle à la division d'une société, et on peut faire confiance, dans certaines conditions, à une représentation si elle respecte certains critères de fidélité à l'objet qu'elle fait entrer dans le cadre de la perception humaine. Les vraies limites de la représentation ne sont donc peut-être pas de l'ordre de la complexité. Les limites de la représentation sont aussi les limites de ce que l'esprit humain, comme capacité vitale, peut déjà percevoir, peut déjà faire entrer dans l'image d'un monde ordonné qui se donne à distance de nous, dans un espace à peu près saisissable par l'esprit humain. Les limites de la représentation sont peut-être aussi les limites de la perception. Et les limites de la perception, ce n'est pas seulement la complexité, c'est aussi ce qui fait éclater les cadres de notre perception. Peut-être que l'irreprésentable, c'est d'abord ce qui nous fait souffrir ou ce qui nous fait jouir d'une manière telle qu'on ne peut pas se le représenter. Le bonheur absolu et inattendu, ou au contraire la souffrance atroce et qu'on ne peut pas mettre à distance de soi comme si c'était un objet maîtrisable. L'irreprésentable qui travaille, qui traverse, qui déchire, qui brise la représentation, c'est peut-être avant tout ces forces qui nous font rugir de peur ou d'effroi, ou parfois aussi, au contraire, de plaisir et de joie. Il y a des affects qui dépassent la présentation comme si c'était des objets à distance de nous. Le XXe siècle a fait l'épreuve de l'irreprésentable dans la représentation elle-même. Le travail de l'artiste, c'est justement d'essayer de nous faire percevoir, en défaisant le cadre habituel de la représentation, de nous faire nous représenter ce qui, pour un être humain vivant et souffrant, est peut-être de l'ordre de l'irreprésentable. Comment faire entrer la folie dans le cadre de la représentation? C'est la question d'Artaud dans le théâtre de la cruauté. Comment faire rentrer la souffrance du malade ou la souffrance des victimes de telle ou telle catastrophe ou de telle ou telle terreur? Comment faire rentrer la terreur elle-même dans le cadre de la représentation? Le travail de l'art, le travail de la philosophie, le travail de l'histoire, le travail de la politique aussi, ce n'est pas seulement de représenter la complexité et ce qui est absolument nécessaire, ou la diversité humaine et sociale, mais aussi de faire entrer dans le cadre de la représentation ce qui la dépasse, pour le meilleur ou pour le pire.
Merci Frédéric Worms. Cette émission a été réalisée par Nicolas Berger avec à la technique Alex Dang. Elle a été préparée en particulier par Victoire Mellet et toute l'équipe d'Avec Philosophie, Anna Fulpin, Carla Michel, Nassim El-Kabli, Corinne Amar. Vous êtes sur France Culture. Vive la curiosité.